pour discuter de tous ces sujets. J'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Valérie Plagnol. Bonjour Valérie.
Bonjour Raphaël.
Présidente du Cercle des épargnants. À vos côtés, Frédéric Farah. Bonjour Frédéric, économiste, professeur à l'université à Paris 1. Et Bertrand Rambaud. Bonjour Bertrand.
Bonjour Raphaël.
Président de Siparex. Alors on va commencer par... le message du MEDEF publié hier, ce carte sur table qui dresse un peu le bilan de l'économie française au moment de l'entrée en campagne présidentielle. Bon, il y a deux sujets. Un, il y a le décrochage. Deux, on va discuter ensemble des voies et moyens de rapprocher le salaire du brut. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'idée que les charges, les cotisations sociales, le financement de notre modèle social pèse sur les salaires nets. Ça sera la deuxième partie du débat. Mais d'abord, Valérie Plagnol, je me tourne vers vous. Est-ce que vous estimez que la France décroche ?
Le bilan, il a déjà été fait, le diagnostic a été porté et le décrochage, on l'a vu. Et on l'a vu sur l'évolution de la dette, des finances publiques.
D'abord sur les finances publiques.
Les finances publiques, la fiscalité, nous sommes à peu près 10 points au-dessus des moyennes de l'OCDE, de l'Europe. Il y a vraiment qu'au niveau des dépenses, je regardais les dépenses sociales avec notre voisin allemand où effectivement le coût global est à peu près comparable. Mais on le sait depuis longtemps. Le poids de la fiscalité, les impôts de production, tout ça est bien trop élevé par rapport aux autres, à nos voisins.
Même question à l'autre économiste de la table avant de passer au chef d'entreprise qui est directement en contact avec la vie des entreprises. Frédéric Farah, la France est-elle en train de décrocher ?
On pourrait regarder le verre à moitié plein le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Alors évidemment, si on regarde les finances publiques, par exemple, on peut dire oui, ça va pas. Mais de l'autre côté, alors je ne veux pas être d'un optimisme débordant, nous restons un des pays les plus attractifs d'Europe, je rappelle. Je
veux dire, toujours numéro un pour les investissements étrangers en Europe, le baromètre EY.
Soit on pense que les investisseurs ne comprennent rien, donc ils viennent chez nous, je ne sais pas ce qu'ils font, ils sont complètement à côté de leur pompe, soit on peut leur faire confiance, ce qui serait plutôt mon cas, et s'ils viennent ici, c'est bien pour une raison. Donc ça veut dire que c'est une première chose. Deuxièmement, on décroche relativement, parce qu'en termes de coût du travail, on a fait considérablement des progrès par rapport à nos voisins et particulièrement par rapport à l'Allemagne.
Oui, on a gagné près de 15 points de compétitivité depuis quelques années.
Donc c'est quand même plutôt encourageant. Trois, aujourd'hui en termes de croissance, plutôt l'homme malade de l'Europe, c'est plutôt notre voisin allemand que nous, même si notre croissance elle n'est pas fofolle, mais en même temps il y a des événements extérieurs sur lesquels notre pouvoir reste très relatif, dans le Golfe ça s'agite paraît-il, et ça a des effets chez nous. Donc je dirais que on peut regarder les deux, il y a effectivement des choses un peu inquiétantes, mais il y a aussi des choses rassurantes quant à notre capacité à faire des efforts, quant à notre capacité à rattraper nos voisins, quant à notre capacité à attirer les investisseurs. Ce qui fait que c'est pas vouloir ménager chèvre et chou, je me dirais attention au catastrophisme tout en restant vigilant.
Oui, on a donc en tout cas un consensus du côté des économistes Bertrand Rambaud pour dire que les finances publiques, il y a un effort à faire, mais l'image, la picture, la photo de l'environnement est peut-être plus nuancée que ce que l'on pense. Vous qui êtes en contact avec des entreprises tous les jours, Bertrand Rambaud, au travers de votre fonds Siparex, est-ce que vous diriez qu'on décroche ?
J'aurais peut-être une lecture un tout petit peu différente de celle de Frédéric. Oui, on décroche, en tout cas sur les sujets de rémunération, puisque ce qui se retrouve à la fin dans tout ça, dans la discussion,
c'est le pouvoir d'achat.
C'est le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, c'est un vrai sujet, en Europe et en France. Donc je pense qu'on décroche avec ces sujets de charge et je le vis, oui, il y a des investissements étrangers, mais on le voit, c'est les data centers, c'est la tech, sur vraiment l'emploi industriel, ce qui est quand même une base économique importante de la France, il y a un décrochage. Et juste deux mots, si vous comparez un compte d'exploitation d'une société française par rapport à une société d'un autre pays, et notamment je prends le Canada que je connais bien, les 10 points d'écart que vous exprimez tout à l'heure, mais on les lit. Donc c'est une réalité. Le constat, je pense qu'il est extrêmement clair. Alors après, quid des solutions ?
Bon, on va venir alors au grand sujet du moment qui est effectivement rapprocher le brut du net. Hier, le Haut Conseil au financement de la protection sociale, présidé par Dominique Libault, a publié un rapport pour expliquer que non, contrairement à ce qu'on entendait beaucoup, et on le dit nous très régulièrement sur le plateau des experts, les cotisations sociales n'ont pas augmenté sur les salaires depuis 30 ans et que donc ça n'est pas la faute de notre modèle social si on a un problème de pouvoir d'achat en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, Valérie Plagnol?
Moi, ce que j'ai entendu, et puis on va reparler de statistiques, c'est que quand même, le poids a augmenté d'un peu plus de 1%. Alors effectivement, 1% sur 30 ans, c'est pas beaucoup. Et d'où le rien. Oui. Mais un rien, c'est pas grand-chose. C'est déjà quelque chose, plutôt, comme disaient certains humoristes. Oui. Donc, je partage pas tout à fait ce diagnostic de stabilité parfaite. Et effectivement, ça s'est accompagné d'un transfert de charges et d'endettement vers d'autres points et d'autres charges qui pèsent obligatoirement sur le pouvoir d'achat. Alors, la question, effectivement, de savoir s'il faut transférer sur une assiette beaucoup plus large,
oui,
l'ensemble des cotisations se pose.
La TVA ou la CSG sociale.
Voilà, mais à terme égal. Ça a peut-être pas beaucoup augmenté, ça a augmenté un peu, ça n'a pas baissé. Donc, tout ça, et par ailleurs, ça a augmenté. Donc, je trouve le constat peut-être un peu trop partiel.
Il y a deux codicilles qu'il faut dire. C'est que, un, le Haut Conseil ne prend que les charges salariales.
Absolument.
Il ne prend pas en compte le super brut qui, lui, a sensiblement augmenté. Il ne prend que les 30 dernières années, si je puis dire. Depuis 50 ans, ça a quand même sérieusement augmenté aussi. Mais ce transfert, Frédéric Farah, ce transfert de cotisation vers d'autres assiettes, la CSG, la TVA, c'est ce que propose le MEDEF. 30 milliards de baisse de cotisation salariale pour rendre du pouvoir d'achat aux salariés. Est-ce que c'est une bonne idée?
Alors, avant de répondre exactement à votre question, une remarque sur le rapport du Haut Conseil. C'est intéressant. Le choix des 30 ans, c'est pas pour faire que ça fasse rond, mais c'est important en termes d'histoire économique.
Oui.
Alors, il faut bien le préciser. Pourquoi 30 ans et pourquoi ces cotisations, si on observe du côté des salariés, n'ont pas tant augmenté et qu'on a observé à la même période, à partir des années 1990, des exonérations de cotisations sociales patronales jusqu'à hauteur de 80
c'est
milliards.
C'est la mise en place des allègements de charges autour du SMIC.
Et ça, c'est deux. Et trois, la montée en charge de la CSG, fin des années 80, début 90, avec une modification du financement de la protection sociale par un accroissement du poids fiscal par rapport aux cotisations. Que s'est-il donc passé pendant 30 ans, il y a 30 ans? C'est un moment clé de notre histoire économique qu'il ne faut pas oublier et qui dessine le cadre dans lequel nous évoluons.
Oui.
Alors, quel est ce cadre? Nous avons décidé de créer, il y a eu deux événements, la libre circulation des capitaux en Europe à partir du début des années 90, plus le traité de Maastricht. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie concrètement que le capital va avoir une liberté de manœuvre supérieure à celle du travail. Il sera donc plus mobile. Que dit-on en économie? On dit en économie que le facteur de production le moins mobile, c'est sur lui que porte l'ajustement, parce qu'il ne peut pas aller plus vite que l'autre.
Oui.
Donc, à partir du moment qu'on rentre dans ce cadre, quel est l'horizon de la politique économique partout en Europe? C'est la compétitivité. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contenir le coût du travail, parce que sinon, on va dégradation de notre compétitivité, et il faut faire en sorte que les entreprises ne se retrouvent pas lestées là-dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Autrefois, quand on avait des besoins pour notre protection sociale, on jouait avec les cotisations sociales. Là, on a dit, c'est plus possible parce que l'environnement macroéconomique n'est plus le même. Donc, conséquemment, on s'est posé la question de comment on va faire pour réduire le coût du travail. Et qui a commencé à lancer...
Avec un chômage très élevé à l'époque, voilà. Autour du SMIC.
Exactement.
Il y avait vraiment l'idée de doper l'emploi.
Doper l'emploi. Et qu'est-ce qu'on faisait? On voyait les emplois peu qualifiés disparaître. Donc, on a dit, on va exonérer les cotisations sociales. Qui est allé plus vite dans la musique que nous à une époque, à la fin des années 90, c'est les Allemands, avec le calendrier Schröder et les réformes Schröder. Donc, en Europe, la question du coût du travail est devenue la question centrale, donc du financement de la protection sociale, puisque quand on a financé la protection sociale sur des cotisations sociales, cet environnement macroéconomique des années 50 aux années 90 n'était pas celui-là.
Oui.
Donc, à partir du moment où vous avez changé le cadre macroéconomique, vos sources de financement, votre modalité de financement de votre protection sociale ne peut plus être exactement la même que celle du passé. Donc, effectivement, on a dit, on va aller vers une fiscalisation. D'où la montée en charge de la CSG de 90 à nos jours, de manière indiscutable.
Oui. Même si... Qui a pesé sur le pouvoir d'achat, ce que vous nous dites, c'est que les impôts ont dû augmenter sur le travail.
Ben voilà. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation, d'où la question des salaires. Surtout, je dis juste une dernière chose, n'oubliez pas, je regardais la dernière décision de la BCE, il y a toujours cette crainte que si les salaires s'emballent un peu trop, il va avoir de l'inflation. Donc, s'il va avoir de l'inflation, effet de deuxième tour. Donc, il faut resserrer la politique monétaire. Donc, vous voyez bien, je pense que toutes ces questions pour analyser les propositions des uns et des autres doivent se faire avec ce cadre macroéconomique à l'arrière.
Alors, c'est un rappel historique utile, mais est-ce que vous êtes d'accord avec la conclusion du Haut Conseil
alors,
de financement
pourquoi,
de la protection sociale
que les cotisations n'ont pas tant augmenté. Après, on peut faire ces codicilles que vous faisiez tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le problème de la proposition du MEDEF, c'est cette exonération. Elle a fait l'objet d'un débat de très nombreux rapports, Vasmer, Bozio et autres.
Bien sûr, pour Antoine Fouché le pousse encore aujourd'hui. La réponse de Dominique Libault à Antoine Fouché.
Et de dire que peut-être là-dessus, il faut être relatif sur l'impact positif. Donc je pense qu'il faut garder le débat ouvert.
Donc vous, plutôt contre?
Oui, plutôt.
Plutôt contre la TVA sociale. Bertrand Rambeau.
Écoutez, je suis pas allé vérifier les chiffres entre les deux calculs qui ont été faits. Je pense de toute façon, votre diagnostic est excellent. Non, mais il faut le faire. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, on n'a pas le choix de faire bouger nos modèles. On n'a pas le choix de faire bouger la table très fortement, de la renverser. Et je pense que c'est une solution. J'aurais juste mettre un point en exergue que moi je vis à travers mes entreprises. On voit aujourd'hui, pour la première fois depuis quelques mois, vraiment l'impact de la crise des finances publiques sur la commande publique dans les entreprises.
Ah,
parce que avant, c'était un sujet un peu intellectuel. C'était le sujet du trésor de se refinancer, si on fait simple. Aujourd'hui, ça commence à toucher la vie économique. Ça touche nos entreprises. C'est vrai sur la transition énergétique. C'est vrai sur la formation, on l'a vu. Des petits sujets comme ça qui avancent. Et donc, on est dedans. On a bien vu sur les problèmes du carburant récemment, l'État n'a pas pu prendre de mesures d'aide.
On a ciblé les
mesures.
On est
là-dedans. Et donc, si on ne bouge pas sur des mesures fortes, en fait, ça va se faire, cet ajustement, il va se faire de façon extrêmement insidieuse et je pense encore plus grave pour le fond de l'économie et des personnes. Donc on est face à ça aujourd'hui et ça sera un énorme enjeu de 2027, c'est certain.
Ah, ça, on aura l'occasion d'en reparler effectivement. Bon, quand on se regarde, parfois on se désole, quand on se compare, on peut parfois se consoler. C'est peut-être le cas de la Grande-Bretagne. Ça fait 10 ans aujourd'hui, 10 ans que la Grande-Bretagne a voté pour le Brexit. Question simple ce matin, est-ce que la Grande-Bretagne a repris le contrôle? On parle économie ce matin, mais a-t-elle aussi peut-être perdu le Nord? On voit situation politique compliquée, on va toucher un mot de la démission de Starmer et de la nomination de son successeur, Burnham, le maire de Manchester. Mais Valérie Pagnol, je commence avec vous d'abord, le bilan économique de 10 ans de Brexit. Bon,
je commence à avoir un petit souvenir. Je me souviens qu'on s'est endormi en se disant que le non l'emportait et on s'est réveillé avec le oui. Et je crois que même à l'époque, Nigel Farage avait été assez étonné.
Quelle surprise!
Et Boris Johnson aussi, les artisans de ce Brexit. Et effectivement, le bilan n'est pas très bon, pour dire le moins. Je me souviens, pour parler d'une des promesses qui était celle d'une réorientation du commerce anglais vers. Par exemple, l'ancien Commonwealth, ou le Commonwealth, pour ce qu'il en reste.
Il s'agissait de faire le Singapore and Thames.
Voilà, ça n'a pas été particulièrement probant, pour le moins. L'Angleterre reste attachée à l'Union européenne du point de vue cyclique aussi. On va revenir sur ce point, mais je dirais aussi que nous y avons perdu.
Pourquoi?
La France et l'Europe. C'était un partenaire, et c'est un partenaire important. Et ces dernières années, et notamment dans le contexte de difficultés, de tensions géostratégiques, la coopération avec le Royaume-Uni est très importante. On a une coopération énergétique et des interconnexions très importantes. Et ce rapprochement est peut-être en continuité, puisque le Labour est quand même plus favorable à ça. Et pour l'instant, on assiste à une transition à l'intérieur.
Et se rapproche de plus en plus de l'Union européenne.
Et se rapproche de l'Union. Et sur la défense, on a toujours été plus proche des Anglais que certains autres partenaires européens. Donc, je pense qu'on y a perdu aussi. Et tout ça est bien dommage. Et
du
point de vue
perdant.
Des transferts financiers, ça n'a pas été non plus extraordinaire, mais un peu.
Frédéric Farah.
Alors, plusieurs choses à dire. Premièrement, moi, j'étais pas surpris du résultat, non pas parce que je sais mieux les choses que les autres, mais comme la Grande-Bretagne, depuis qu'elle est rentrée dans l'Union européenne, elle était toujours un pas devant, un pas dehors, donc ça m'a pas surpris. Je veux dire, on peut pas dire, si on m'en avait parlé d'un pays, par exemple, qui était très europhile, l'Espagne, le Portugal, à des moments du temps, on aurait dit, bon, c'est bizarre, les Portugais, ils s'en vont, les Espagnols, ils s'en vont.
Ah oui, mais quand même, la Grande-Bretagne est installée depuis des décennies, on avait l'habitude qu'il soit le poil à gratter.
Je veux dire, I want my money back.
Bien sûr.
Donc d'une certaine manière, qu'il y avait un fond eurosceptique chez les Anglais, je suis pas tombé de ma chaise quand je l'ai découvert il y a 10 ans. Mais c'était surprenant. Mais ce que je veux dire, c'est que le Brexit a exacerbé, a compliqué la situation d'une économie qui était déjà pas en très très bonne forme au moment du Brexit.
Ah oui.
C'est-à-dire que l'économie de la Grande-Bretagne, comme d'autres économies européennes, connaissait une désindustrialisation qui était quand même préoccupante, et reposait sur deux piliers qui interrogeaient l'immobilier et la finance. Mmh. Bon. Et quand le Brexit arrive, l'Angleterre connaissait déjà des situations en termes économiques, de pauvreté, d'inégalité, de désindustrialisation qui n'étaient pas très jolies. Le Brexit n'a pas arrangé les choses, certes, mais en même temps, je regardais les statistiques en venant, c'est que quand même le PIB britannique, entre cette date et aujourd'hui, a progressé d'environ 12%, donc ce qui n'était pas si catastrophique par rapport aux voisins. Et de toutes les façons, avec ou sans Brexit, il y a une réalité économique. Est-ce que les échanges avec la Grande-Bretagne et le reste de l'Union européenne continuent de manière significative? Oui, parce qu'on peut pas faire sans, etc. Et puis en même temps, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu fou. Comme aujourd'hui, on est dans une segmentation de la chaîne de valeur. Une partie de la production britannique est faite en Europe. Donc si elle revient en Angleterre, elle est taxée par les Britanniques. Ça n'a pas trop de sens, si vous voulez. Donc je pense que le bilan n'est pas extraordinaire. Il y a une grave instabilité politique en Grande-Bretagne, ce dont ils n'avaient pas l'habitude. Et ça, c'est pour l'environnement économique, c'est pas terrible.
Bertrand Rambeau, la place financière de Londres.
Oui, reste.
C'est évidemment le sujet majeur. Alors, on a beaucoup dit qu'en France, on avait bénéficié, hein, que Paris devenait la première place européenne grâce au Brexit, mais Londres a plutôt bien résisté, non, en termes de services financiers.
Oui, Londres a très bien résisté. Ça reste une place financière énorme. Je veux juste parler de ce que je connais le mieux, mon métier. L'actif privé, le private equity, la dette privée, les infrastructures. Ça reste le premier marché en Europe, enfin en Europe au sens large, géographique. Oui. Voilà, avec quand même... Parce que qu'est-ce qui fait ce ciment anglais, différent du ciment français qui reste très fort, c'est l'attirance des capitaux anglo-saxons. Et donc en fait, ça reste un marché, de très grands investisseurs, de grosses opérations. Voilà. Alors la France, pendant ce temps, au cours de ces 10 ans, est-ce que c'est lié au Brexit? Ça, je ne sais pas. Je pense pas directement, mais a beaucoup progressé. Donc une année dans
on a fait métier, beaucoup d'efforts pour l'attractivité.
Voilà, hein, exactement. La vous l'avez souligné tout à l'heure. Hein, c'est une réalité. Et une année, les Anglais sont devant. Une année, les Anglais sont derrière nous. Ça, c'est quand même nouveau. Mais là où c'est très différent, c'est que nous, l'argent qui arrive en France, il s'investit dans les entreprises françaises, tandis que Londres est un hub, est un hub international, et l'argent est géré à Londres et repart à l'extérieur, et ça reste. Le deuxième point, c'est que c'était il y a 10 ans, comme vous, je me rappelle du réveil du matin, du vendredi matin.
Oui.
C'est pas probant, et surtout que depuis 10 ans, le monde géopolitique a changé, et on peut plus être isolé. C'est pas possible. Il y a des blocs dans ce monde,
oui,
et on a besoin de faire bloc au-delà des enjeux financiers. Et je pense que voilà, il faut, à mon sens, sortir de ça, parce qu'il faut que notre Europe géographique soit forte.
Dans la conjoncture actuelle, en plus, un gouvernement travailliste face à la fameuse special relation avec les États-Unis est quand même mis à mal. Et ça n'aide pas ces gouvernements. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger aussi sur les projets du prochain Premier ministre.
Alors allons-y, Andy Burnham, est-ce qu'il peut appliquer à tout le pays son modèle de Manchester?
Ça paraît
investissement
compliqué.
Public, renationalisation, enfin ouais. C'est surprenant.
Il a dit un peu tout et son contraire, parce que effectivement, il a une politique, il a beaucoup critiqué cette politique d'économie budgétaire. En même temps, il veut rassurer les marchés en disant qu'il va garder la même chancelière,
oui,
de l'échiquier,
oui, équivalent au ministre des Finances.
Qui a assumé quand même l'économie, l'économie, absolument. Donc pour l'instant, c'est un peu difficile de tirer des conclusions claires de ce qui va se passer. L'éléphant dans la pièce, c'est le parti Reform UK. J'ai beaucoup de mal à l'appeler Reform parce qu'il est surtout très conservateur.
Oui,
mais il prêche un peu l'opposé de ce qu'il annonce, et c'est bien l'enjeu pour le Royaume-Uni.
Frédéric Farah.
Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, les travaillistes, par moment, depuis un ne savent plus trop où ils habitent.
Hein. Ouais.
Parce que, à un moment donné, ce qui a tenu lieu pour les travaillistes de lignes de direction, et avec lesquels aujourd'hui ils sont embarrassés, c'était le blairisme.
Mmh.
Voilà. C'était Tony Blair, c'était...
New Labour.
Le New Labour, c'était la troisième voie, c'était une façon à la fois d'intégrer ce qu'avait fait le thatcherisme en y mettant une sauce travailliste. On a essayé de trouver une espèce d'hybridation. Ce truc a un peu explosé. Et on parlait de changement d'époque. Soudain, quand on repense à Tony Blair, on a l'impression que les années 90, c'était il y a 150 ans. Hein. Bon, pourtant, c'était hier. Et donc, il y a maintenant une course à... est-ce qu'on revient à un modèle plus travailliste pur jus, on refait de la renationalisation, on remet de l'État, est-ce que au contraire il faut garder de l'héritage précédent des choses? Et on voit bien que ce parti est un peu sur le reculoir. Et là, je reprends ce que vous étiez en train de dire. Ce qui est en plein dynamique, c'est plutôt Reform, qui est évidemment et qui est symbolique pour les travaillistes. C'est que un peu partout en Europe, les gauches européennes, on les appellera comme on voudra, sont plutôt sur le reculoir qu'autre chose. Ça, c'est un phénomène politique qui traverse à peu près tous les pays à l'heure actuelle.
Oui, la Grande-Bretagne n'est pas isolée.
Non, la Grande-Bretagne n'est pas isolée. Après, c'est évident que la Grande-Bretagne, d'un point de vue géopolitique, je le rappelle qu'en Europe, on avait deux armées significatives pour faire quelque chose, nous et les Britanniques. Pour le reste, je ne veux pas être vexant à l'égard de nos partenaires, pour lesquels j'ai le plus grand respect, mais techniquement et militairement, les deux poids lourds de l'affaire, c'était les Britanniques et nous. C'est... Donc, quand les Britanniques sont sortis, on se retrouvait un peu tout seul dans l'aventure, ou sachant qu'en plus, aujourd'hui, il faut poser la question de la défense européenne, parce qu'on a compris que nos alliés américains, surtout en version Trump, étaient plutôt assez illisibles dans ce qu'ils voulaient nous concernant.
Oui. Bertrand, un dernier tour de table peut-être sur le rapprochement européen. Ils en parlent de plus en plus, 10 ans après le Brexit, nos amis britanniques.
Oui, après l'Angleterre, à son histoire, restera cette île qui est vraiment ancrée chez eux. Ça restera une place financière très dominante. Je pense que là-dessus, il n'y a pas d'interrogation à avoir.
Et juste une chose, c'est que, en fait, l'Angleterre par rapport à l'Europe, c'est intéressant. Si vous voulez, pour l'Europe, il y a trois voies possibles, il n'y en a pas 40. Soit ça ne devient plus qu'une vaste zone de libre-échange complètement diluée, et c'est un peu ce que voulaient les Britanniques, soit effectivement c'est un retour...
Est-ce que c'est un marché ou une construction politique?
Voilà. Soit on revient aux États-nations, c'est ce que certains ont pu vouloir. Troisième voie, une forme de fédéralisme. Voilà les trois.
Et on est toujours dans cette.
Et on est toujours dans cette espèce de tension. Soit on dilue tout dans une vaste zone de marché parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Soit on revient chez nous en disant bon, le voisin à côté il est un peu louche, on l'aime plus trop. Soit on tente de faire des formes de fédéralisme acceptées, acceptables. Ouais. Mais on n'est pas sorti de là. Et d'une certaine façon, si demain l'Europe se diluait dans une vaste zone de libre-échange, que l'Angleterre revienne ou pas, la tentation qui était la sienne l'emporte en partant. C'est ça qui est paradoxal, vous voyez.
Donc si c'est le retour du UK, si je vous comprends bien Frédéric Farah, on est de retour sur une idée de on va refaire le marché, mais pas d'objet politique, mais voilà, pas de construction politique. C'est un peu le sujet des extrêmes droites aussi qui poussent absolument de partout. C'est-à-dire qu'on ne quitte plus l'Europe. Ils ont bien vu que les populations ne le souhaitaient plus. Le RN a abandonné l'abandon de l'euro, ne parle plus de Frexit, ce mot a disparu de leur vocabulaire, ils veulent maintenant le changer de l'intérieur.
Voilà, et pardonnez-moi.
Oui, mais...
Allez-y, je vous en prie.
La difficulté, justement, est entre le propos et l'intention, parce que la réalité, effectivement, de ces mouvements populistes, c'est qu'elle reste quand même... peu ou même anti-européen. On est quand même dans plus de nationalisme, plus de protectionnisme, plus de fermeture des frontières. Et c'est même plus le débat autour d'un fédéralisme ou pas. Cette dimension supranationale et de transfert d'une partie des souverainetés dans un espace politique plus large, y compris dans la réussite et dans l'abaissement des frontières, est quand même encore remis en question. Et c'est vrai que c'est le danger aujourd'hui, mais je suis une pro-européenne convaincue.
Mais c'est ça aussi un enseignement du Brexit qu'ont tiré ces forces-là. C'est-à-dire, quand ils ont vu le temps que ça a pris pour faire ce traité de sortie, les milliers de pages et les milliers de réunions qu'il a fallu, ils se sont rendus compte que c'était une voie à la fois politiquement, économiquement coûteuse. Donc, changement de stratégie. Et qu'est-ce qui fait que le RN a réintégré le jeu politique français? C'est qu'il a dit, n'ayez pas peur. Est-ce que je vais sortir de l'euro ?
Je ne casse pas.
Jamais de la vie.
Je modifie l'intérieur.
Est-ce que je vais faire du Brexit ? Jamais de la vie. Ouais. Donc je pense que la force de ces forces politiques...
Je demande des exceptions. Je ne demande que des exceptions.
C'est d'utiliser les institutions européennes à des fins qui ne sont les leurs. Ouais. Et qui apparaît beaucoup moins coûteux politiquement que de s'en lancer dans des opérations de sortie diverses et variées.
Vous voulez ajouter un mot rapide ?
Voilà, mais rapide. Je suis très vigilant et attentif sur ces mouvements souverainistes parce que derrière les grands discours, il se cache quand même des vraies philosophies. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin impérativement d'une Europe très forte. Alors je parle au niveau économique, mais au-delà, c'est absolument indispensable. Et donc attention à ça, on en voit les conséquences sur l'Angleterre au niveau économique ces dernières années. Donc je pense qu'il faut impérativement lutter contre ça. Et lisons bien les programmes de chacun. Parce que vous verrez que derrière, et en filigrane, il y a un souverainiste fort qui revient. Oui, c'est un grand danger.
Pour et une fragmentation.
Et la chose très importante, c'est parce que tout à l'heure, pour terminer, on évoquait les tensions sur les finances publiques. Aujourd'hui, on a des problèmes majeurs à résoudre en européen. C'est-à-dire, par exemple, le changement climatique, vu ce que ça réclame comme montant, ça ne peut pas se faire tout seul.
Oui, et la défense, par exemple. Allez, on passera à un autre sujet après la coupure pub. Restez avec nous, on va parler des fonds vautours, de ce rapport parlementaire. Faut-il protéger les entreprises de leurs sauveurs? C'est un titre un peu provoque, mais on va voir ce qu'en pensent mes invités. Et puis, on finira avec Alan Greenspan, décédé hier à 100 ans. Alan Greenspan, génie des marchés ou père de la crise financière? On se retrouve dans une minute, ne quittez pas.